franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient toujours le verre à moitié vide et ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. Il y a aussi bien sûr ceux qui voient toujours le verre vide et ceux qui se débrouillent pour avoir toujours le verre plein. Ceux-là sont ceux qui ont un problème avec la boisson. Quant à ceux qui voient donc toujours le verre à moitié vide, ce sont les pessimistes et les autres. Ceux qui voient toujours le verre à moitié plein, ce sont les personnes qu'on qualifie d'optimistes. Il y a les guerres, les maladies, la misère, le chômage, la croissance en berne et le réchauffement climatique. Il y a Donald Trump et touche pas à mon poste, les accidents de voiture et la banquise qui font, mais qu'importe, ils refusent de voir ce qui est moche et triste. Ils refusent de ne voir que cela et préfèrent regarder ce qui les met en joie. Bienvenue donc chez les optimistes et bienvenue à la Ligue des optimistes de France, association née il y a maintenant 6 ans. Parmi les premiers adhérents, quelques célébrités, Éric Emmanuel Schmitt, Jean d'Ormesson ou encore Éric Orsenna. Mais rapidement, des anonymes se sont joints au mouvement, 30 euros l'adhésion annuelle et des réunions régulières aux 6 coins de l'Hexagone, comme à Tours, il y a quelques semaines. Une réunion que nous raconte William Thorpe dans Society. Le cadre, c'est un restaurant, les tables sont drapées de smileys et on peut lire des citations imprimées ça et là, du genre « si tu essayes, tu as un risque de perdre, mais si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu ». Une trentaine de personnes dans la salle devisent un kir à la main. Louise, l'organisatrice, espérait davantage de monde. Mais bon, c'est bien mieux qu'au début, choisit-elle de positiver le verre à moitié plein. Et c'est cet esprit qui domine chez tous les participants. Tous estiment que le monde va bien mieux qu'on ne le pense, parce que la pauvreté ne cesse de reculer en France, de même que le travail des enfants dans le monde, parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de conflits à la surface du globe. Et parce qu'on éradique même une multitude de maladies. Du reste, le taux de natalité en France est le plus haut de l'Union européenne et plus de 550 000 entreprises y ont été créées l'an dernier, 6% de plus qu'en 2015. Alors quand j'entends que l'on est un pays pessimiste, franchement, c'est à mourir de rire, s'exclame Philippe Gabillier, professeur de psychologie, qui se présente également comme un inspirateur d'optimisme. Il voit toujours le verre à moitié plein.
En politique aussi, Frédéric, il y a deux types de personnes.
Il y a les pessimistes, il y a les optimistes. Et si l'on en croit les journaux ce matin, à la veille du premier tour des élections législatives, l'optimisme est bien du côté des candidats se revendiquant du président de la République. Ceux qui se présentent sous les couleurs d'autres partis craignent le verre à moitié vide ou pire encore, pas de verre du tout. Les électeurs français sont appelés à choisir leurs 557 députés pour les 5 ans à venir. Et s'ils changeaient tout, s'interroge la Provence, soulignant que le renouvellement des visages est en vue. Même prévision pour aujourd'hui le Parisien qui annonce un grand chamboule-tout. Si elle se confirme, écrit le quotidien, la vague qui porte Emmanuel Macron depuis son élection conduira forcément à un bouleversement du cadre politique actuel. Vague ou tsunami, questionne Libération à sa une, comme si l'essentiel était déjà joué. Reportage à Marseille, à Palavas, à Lyon, rencontre avec des électeurs, espoir des uns, crainte des autres. Le journal fait le point sur ce qui se joue pour chacun des partis en présence. Idem dans le Figaro, qui lui aussi prévoit que ces législatives redessinent entièrement le paysage politique français. L'une des explications, c'est que plus d'un tiers des députés ne se représentent pas. Des schémas et graphiques nous présentent le profil des candidats en lice. Ils sont près de 7900. Un type de profession très largement représenté, les cadres et les professions libérales. 36% des candidats, alors qu'ils ne sont que 9% dans la population française. À l'inverse, deux catégories paraissent sous-représentées. Tout d'abord, celle des retraités, 14% des candidats, alors qu'ils sont 27% dans la population française. Et seuls 2% des candidats sont ouvriers, alors que les ouvriers représentent 14% de la population française.
Oui, des candidats qui pour beaucoup concourent à un premier mandat.
Et qui donc avant la campagne étaient de parfaits inconnus dès lors. Comme le raconte Vincent Montgaillard dans les colonnes du Parisien, certains pour tenter de se faire connaître ont misé à fond sur l'originalité. Il en est qui ont fait des clips musicaux et dansants, nettement plus regardés que les vidéos plus sérieuses. D'autres ont organisé des tournois de basket afin de mobiliser les jeunes. D'autres encore ont mené la campagne en allant dormir tous les soirs chez l'habitant, chez les habitants de leur circonscription. Il en est même qui ont distribué des M&M's ornés de leur jolie trombine. Dans la presse ce matin, on retrouve aussi la trombine de Theresa May. Theresa May prise à son propre piège, titre ainsi le Figaro. Aux élections législatives en Grande-Bretagne, la gauche alternative a sensiblement progressé. Privant le gouvernement d'une majorité absolue au Parlement britannique, Theresa May perd son pari, commente l'indépendante. On dit que West France évoque une Theresa May affaiblie. Pour Le Monde, ce résultat pourrait bien retarder les tractations sur le Brexit.
Et puis un tout autre visage dans Philosophie Magazine.
Vous vous souvenez peut-être, c'était il y a 18 mois, un prêtre polonais qui fait son coming out et claque la porte du Vatican, à la veille du synode des évêques sur la famille. Il s'appelle Christophe Charamsa, il a 45 ans et si l'affaire avait à l'époque fait grand bruit, c'est parce qu'il occupait une fonction importante au Vatican. Il était l'un des dirigeants de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l'organisme chargé d'édicter les règles morales de l'Église. On le retrouve donc ce mois-ci dans Philosophie Magazine où il revient sur ce moment, ce jour d'octobre 2015, où il a décidé devant les micros et la presse de faire part au grand jour de son homosexualité. « Oui, dit-il, je voulais que mon coming out soit éclatant parce que je le considère comme un sacrement, c'est-à-dire un acte public qui implique l'énergie de Dieu. Jusqu'aux dernières minutes, j'ai lutté contre mes peurs, mais la force invisible d'une vie nouvelle m'appelait. » Puis il explique ses espoirs. « Un jour, par si lointain, il y aura des prêtres, hommes et femmes, qui pourront se marier avec des hommes ou se marier avec des femmes. Il s'agit d'une évolution inévitable, dit-il. » Voilà donc ses espoirs. Mais on part vraiment de très loin, car ce que raconte Christophe Charamsa, c'est avant tout l'homophobie qui règne au Vatican et précisément au sein de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à laquelle il a participé durant 12 ans. « Je me suis rendu compte, confie-t-il, que j'appartenais à une sorte de service secret, guère plus glorieux que le KGB, nous avons rédigé des textes qui prévoient une véritable persécution des homosexuels. »
Persécution, le mot est fort.
Mais il paraît approprié, si l'on en juge par le contenu des textes évoqués. Interdiction pour les catholiques de louer un bien immobilier à un homosexuel. Interdiction pour les catholiques d'embaucher un homosexuel dans une école, dans une piscine ou un centre sportif. Interdiction pour les homosexuels de faire leur service militaire. De surcroît, depuis 2005 et le pontificat de Benoît XVI, les nouveaux prêtres doivent non seulement faire vœu de célibat, mais aussi déclarer qu'ils sont hétérosexuels. Totale hypocrisie, estime Christophe Charamsa, lequel assure qu'il y a de très nombreux gays dans l'Église, et y compris au Vatican, y compris au sein de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Dans un livre paru il y a quelques mois, il évoque même des barésilles cachées sous des soutanes. Mais la congrégation a-t-elle réellement du pouvoir? Lui demande dès lors Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Réponse de Christophe Charamsa. Toute la diplomatie du Vatican se fonde sur les textes de la congrégation et c'est sur cette base que nous faisons pression sur les gouvernements. Puis l'on perçoit une forte culpabilité. Ces documents que j'ai contribué à rédiger détruisent la vie de centaines de milliers de personnes. Lui plaide aujourd'hui pour l'amour, la liberté d'aimer, que cela soit une femme ou un homme. Et il rêve aujourd'hui que l'Église catholique cesse de s'ériger en experte absolue de la morale sexuelle.
Une grosse déception, c'est dans l'Équipe.
Le titre, c'est tout faux. Et en l'occurrence, ce sont les footballeurs français qui hier ont donc eu tout faux à cause d'une invraisemblable boulette de leur gardien Hugo Lloris dans la dernière minute. Un incroyable couac, lit-on dans Midi Libre. Une bourde pour la Provence. Ils ont été battus 2-1 par la Suède, perdant du même coup la première place de leur groupe de la Coupe du Monde 2018. Enfin, tous les journaux reviennent sur le retour en France du photographe français Mathias Depardon. Après un mois de prison en Turquie, il a été libéré hier et il sera ce matin l'invité de France Inter, l'invité de Pierre Veil et d'Alexandra Hakoun à partir de 8h50. Bien sûr, il reste encore une centaine de journalistes emprisonnés en Turquie. Le verre à moitié vide, mais Mathias Depardon a été libéré. Le verre à moitié plein. À la vôtre et bonne journée.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.